Bonjour, vous qui nous rejoignez sur le net, Dieu vous bénisse. Ça marche?
Oui.
Très bien. Oui. Oh, donc, on s'est couché à quelle heure là? Bonne année. Dieu fera ce qu'il voudra, hein. Mais nous, on va faire ce qu'il faut pour que ça soit une bonne année. Vous êtes d'accord?
Oui.
Donc, on va commencer par quelque chose de bon. Vous voulez quelque chose de bon? Je vous avais dit vendredi soir, êtes-vous des cornichons? Alors, j'ai eu pas mal de courriers. Dans le courrier de notre sœur Elisabeth Bonnet. Bonjour Elisabeth, bonne année à André aussi. Et alors, Elisabeth, c'est juste, elle condense tout, hein, mais tous les autres, voilà. Ils n'ont pas compris que c'est une question. Je n'ai pas dit que vous êtes des cornichons. Enfin, si on est des cornichons, ben voilà, là c'est un joli bocal quand même, non hein? Et moi je suis un cornichon pasteurisé, c'est bien, non? On vous rappelle toujours, on avait été en Amérique, à Tulsa, Oklahoma, et Osborne nous avait rempli le frigidaire de produits français, c'était fantastique, mais il manquait les cornichons. Moi, j'aime beaucoup les cornichons. Donc, on va dans un supermarché, on achète des cornichons, comme on ne sait pas lire l'anglais, puisqu'on est des cornichons. J'achète une boîte de beaux cornichons, les gouttes, ils étaient sucrés. Au secours, les Américains bouffent des cornichons sucrés. Maintenant, c'est devenu aussi la mode en France. Bien, on passe à la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Luc, chapitre 6, verset 38. Je ne vais pas être trop long ce matin, mais je voudrais dire l'essentiel pour l'année 2017. Il va falloir qu'on s'y habitue. Hein. Heureusement, je fais de moins en moins de chèques. Maintenant, avec les cartes, ça passe tout seul, mais avec les chèques, chaque fois, je me trompais d'année. Je savais, je suis en 2015, moi je suis encore en 2015. Ça me rajeunit. Luc 6, 38, vous y êtes ? Alors, c'est Jésus qui parle, et il dit, donnez, et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Alors, j'ai déjà prêché sur ce texte, mais je vais y revenir parce que je veux dire ces choses aujourd'hui. En cette première prédication, de nos jours, les gens, et en particulier les chrétiens, malheureusement, il faut le dire, sont très démocratiques quand ils parlent de Jésus-Christ, mais ils deviennent très fascistes quand ils parlent des chrétiens qui ne sont pas tout à fait comme eux. Et ils ont un schéma de pensée. Ce schéma de pensée, il trouve son origine dans ce qu'on appelle la loi de Jante. C'est pas Janton, hein, la loi de Jante. D'ailleurs, ça sera le titre de ma prédication. Eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est la loi de Jante, parce que la plupart du temps, ils ne lisent pas, ou ils lisent que la Bible, quand ils la lisent, c'est même pas sûr. Mais la loi de Jante, ils ne savent pas d'où elle vient et tout. Si vous êtes curieux, vous avez qu'à aller sur Internet et vous trouverez. Mais ils imposent la loi de Jante au nom de Jésus-Christ, avec autorité. C'est une loi qui a 10 commandements. Ça vous intéresse de connaître les 10 commandements de la loi de Jante?
Oui.
Bon, mesdames. Premier commandement. Tu ne dois pas croire que tu es quelqu'un de spécial. Il y a toute une prédication là-dessus. Deuxième commandement. Tu ne dois pas croire que tu vaux autant que nous. Troisième commandement. Tu ne dois pas croire que tu es aussi sage que nous. Quatrième commandement, tu ne dois pas t'imaginer que tu es meilleur que nous. Cinquième commandement, tu ne dois pas croire que tu sais mieux que nous. Sixième commandement, tu ne dois pas croire que tu es plus que nous. Vous voyez, ils se ressemblent tous à peu près, mais quand même, il y a des nuances. Septièmement, tu ne dois pas croire que tu es capable de quoi que ce soit. Pauvre vermicelle, sauvé par grâce, Seigneur, je vaux rien. Huitièmement, tu ne dois pas rire de nous. Ça va? Neuvièmement, tu ne dois pas croire que quelqu'un s'intéresse à toi, dans le sens où il n'y a personne qui s'intéresse à toi, s'inquiète pas pour toi. Personne s'inquiète à ton sujet. Dixièmement, tu ne dois pas croire que tu peux apprendre quelque chose. En fait, tu n'as pas le droit. En dehors de ce que nous on pense, en dehors de ce que nous on croit. Ça, c'est les 10 commandements de la loi de Jante. Quand je vois une personne qui cherche à m'imposer ne serait-ce qu'une seule de ses lois, je suis poli, parce que ma maman m'a bien élevé. Alors je souris, je suis gentil, et puis après, c'est, je vois ses talons, je suis bien content, et je cherche à ne plus jamais le voir, je fuis. Je fuis ces gens-là. Je les fuis. Non pas parce que j'ai la trouille de ces gens-là, mais simplement parce que j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là. C'est des bouffeurs de temps. On a tous 24 heures dans la journée. Il y a des gens avec ces 24 heures, ils font des merveilles, et puis d'autres, ils font rien. Et d'autres, ils détruisent, en plus, avec ces 24 heures. Moi, je veux utiliser mes 24 heures pour faire des choses bonnards, comme on dit en Suisse. Donc, pas de temps à perdre avec ces gens-là. Qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la loi de Jean? Ben exactement le contraire. Dans 1 Jean 4, 17, c'est le verset qui m'a fait le plus d'impression la dernière fois que T.L. Osborne est venu prêcher à Paris. J'avais déjà lu ce verset, mais là, il m'a vraiment choqué. Il a dit, et c'est écrit, j'ai dit, regardez, j'ai dit, c'est pas possible, c'est écrit ça. Mais oui, c'est écrit ça. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Donc, tu vaux beaucoup mieux que ce que tu penses. Ta présence sur terre est importante. Tu dis, oh non, pas moi. Si, tu es important. Ce que tu fais est important. Oui, mais moi, je fais que la vaisselle. Oui, mais moi, je fais mon fou. Ce que tu fais est important. Ne laisse jamais personne te mépriser. Jamais. Nous ne nous soumettons pas à la loi de Jante. Non, jamais. Mais nous nous soumettons aux lois de promesse de notre Dieu Jésus-Christ. C'est deux choses complètement à l'opposé. Nous ne sommes pas d'ici, nous le savons, il nous a dit. Il y a des gens qui croient aux extraterrestres, ils ont bien raison, j'en suis un. Je ne suis pas d'ici, je viens d'ailleurs. Je viens d'un autre monde. Et je suis ici, et vous êtes ici, vous, en tant que chrétien, pour prouver que Dieu est infiniment plus sage qu'on ne peut se l'imaginer. Nous sommes ici pour démontrer cette sagesse infiniment variée de Dieu. En faisant quoi? En nous soumettant à ces bonnes lois. Les lois ne sont pas des choses qui sont ennuyeuses, elles sont là pour qu'on puisse bien vivre. Ne serait-ce que la loi de la pesanteur. Si vous ne faites pas attention à la loi de la pesanteur, ça va vous coûter cher au bout d'un moment. Toutes les lois de Dieu sont bonnes. Nous devons garder à la pensée que certains faits sont absolument essentiels dans la vie en communion avec Dieu. Parce que Dieu est avec nous, mais nous, on n'est pas toujours avec lui. On oublie des moments. Mais lui, il est toujours avec nous. Et pour pouvoir avoir cette communion, il y a des faits essentiels. Nous avons été reçus dans son royaume, déjà maintenant. Son royaume, il est là, déjà maintenant. Il est là où je suis, parce que je suis un de ses sujets. Peut-être pas le plus important, mais je suis un de ses sujets, et je suis au service du roi des rois. Je suis un roi, je règne sur ma vie, pas sur la vôtre, sur ma vie. Je suis un roi dans ma vie, je règne sur ma vie, parce qu'il m'aide avec ses bonnes lois à savoir comment pour faire. Il est le roi, et il a enseigné que chaque personne, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est une semence. Ça, c'est la base de la base. Mais j'y reviens cette année parce que, puisqu'on est en train de commencer quelque chose de nouveau, puisqu'on commence une nouvelle année, c'est important que nous sachions, que nous rappelions. Il a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et cette semence, de sa promesse, il a dit qu'elle est incorruptible. Il a dit qu'elle est inaltérable, il a dit qu'elle est immortelle, qu'elle est impérissable. Pour ceux qui veulent le verset, c'est dans 1 Pierre 1:23. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui corrompent la parole de Dieu? Ils ne corrompent pas la parole de Dieu, ils se trompent eux-mêmes, c'est tout. Puis ils trompent les autres, mais ils ne corrompent pas la parole de Dieu. Parce que cette semence contient, la parole de Dieu, en elle-même, la vie de Dieu. Le livre n'est pas Dieu, mais ses promesses écrites là, elles sont sorties un jour de sa bouche et elles contiennent en elles-mêmes la vie de Dieu. Alors, tout tout comme la semence du blé produit blé, les promesses de Dieu produisent ce dont elles parlent. Il faut que vous sachiez cela, que vous mettiez ça dans votre... Comme disait Raphaël, tu mets ça dans ton cerveau, tu prends ta Bible, tu te donnes un bon coup sur la tête pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Parole de gitan. Il suffit juste qu'elles soient plantées, ces promesses, paroles, dans une bonne terre, dans un cœur croyant. Un cœur croyant. Moi, au départ, je crois, puis après, quand je m'aperçois qu'on me roule, ben j'arrête de croire, je fais confiance, voilà, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un malade mental non plus. Mais les bonnes paroles de Dieu, je peux toutes les croire. Elles sont toutes bonnes. Mes frères et sœurs, il est impossible qu'un fermier, ici on a une campagne, qu'un fermier plante une semence et n'en récolte qu'une. C'est impossible. Le rendement du moissonneur est toujours plus abondant que ce qu'il a semé. Et en cette année 2017, il faut que vous comptiez sur une bonne moisson. Je vous expliquais ce que ça veut dire compter sur une bonne moisson. Parce qu'on a beaucoup semé ces derniers temps, vous ne trouvez pas ?
Oui.
Alors on peut compter sur une bonne moisson, parce que ce qu'on a semé, c'est bon. Moi, je sais que c'est bon. Donc, on peut compter sur une bonne moisson. Ce principe est vrai dans tous les aspects de la vie, dans absolument tous les aspects de la vie. Jésus a souligné qu'il s'applique ce principe à tout ce qu'on donne. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De bonheur, ça c'est dans Actes 20, 35. De bonheur, ça veut dire il y a plus de quand on dit il y a du bonheur dans ses affaires, voilà, vous comprenez, vous avez compris. En disant ça, Jésus, il faisait ressortir qu'il est plus productif de donner que de recevoir. Au moins, j'aime bien recevoir. Mais j'ai remarqué que c'est plus productif de donner. C'est pour ça que quand je reçois, je donne. Pas tout, mais je donne. Parce que aussi, Jésus, quand même, il sait comment on est, il a dit, il ne faut pas museler le bœuf quand il est en train de moudre le grain. Donc on a droit de bouffer une partie. Et il ne faut pas bouffer tout. Parce que seul ce que vous donnez revient multiplié. Ça marche comme ça, c'est ce que vous donnez qui est multiplié. C'est un principe divin, semer et moissonner, c'est un principe divin et c'est la clé de la déclaration de Jésus qu'on a lu là tout à l'heure. Donne et tu vas recevoir dans le pan de ta robe. À l'époque c'était comme ça, on avait déjà fait des poches, ils se baladaient pas avec des besonvilles. Donc voilà, une mesure serrée, secouée et qui déborde, c'est-à-dire vraiment l'abondance. Il est plus, j'ai encore exprès des mots terribles que les chrétiens n'aiment pas, productif pour le fermier de planter son grain, de le donner à la terre. Écoutez-moi bien, il est plus productif pour le paysan de le donner à la terre que de nourrir sa famille avec. Oui, parfaitement. S'il ne plante rien, sa famille va manger pendant quelques temps, et puis après, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ben, ils vont mourir de faim. C'est tout simple. C'est tout simple. En revanche, quand cette semence est donnée à la terre, la loi de Dieu de semer et de moissonner, elle garantit au fermier une moisson, un rendement abondant. De la sorte de graine qu'il a plantée. C'est très important de dire ça. Alors, un des plus grands obstacles à la réalisation de l'œuvre de Dieu, c'est une tradition bête. Cette tradition, c'est celle-ci. On doit donner sans rien attendre en retour. Et se base sur le verset « Ce que ta main droite fait, que ta main gauche ignore ». Ça ne veut pas dire ça. Ça, quand il dit ça, il dit ça aux hypocrites, mais pas à moi. D'accord ? Parce que Jésus ne parle pas que aux gens bien, il parle aussi aux hypocrites. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible que Jésus parle aussi aux hypocrites ? La loi de Dieu, elle est à l'opposé de la loi de Jean. C'est donner et recevoir. Voilà la loi de Dieu. Vous voyez, on ne donne pas parce qu'on en a envie. On n'a jamais envie de mettre la main au porte-monnaie, par exemple, pour donner. Envie, vraiment envie. Aucun paysan dit, j'ensemence mes champs chaque printemps parce que j'adore faire ça. C'est pas vrai. J'attends rien en retour, non, mais rien du tout, non. J'attends aucune moisson, je fais ça juste parce que j'adore, mais bon, j'adore ça. C'est ridicule. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ridicules aussi. Un agriculteur avisé, il s'attend à une bonne moisson. Une bonne semence produit toujours un rendement multiplié. Il est intéressé, le paysan. Vous voyez, les chrétiens se cassent la tête, par exemple, pour connaître la volonté de Dieu. Un jour, j'ai demandé à la frère aux ordres, mais comment vous faites pour connaître la volonté de Dieu? Il dit, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous moissonniez plus que ce que vous avez semé. Alors, choisissez ce que vous voulez moissonner. Ce n'est pas plus compliqué. Choisis ce que tu veux moissonner, alors tu prends la semence qu'il y a en elle, la chose que tu veux moissonner, et tu la sèmes, tu donnes. Et alors tu vas récolter davantage selon la nature de ce que tu as semé. Ça, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, Dieu n'a pas, c'est pas un bipolaire, c'est pas, il n'a pas deux personnalités. Quand il dit quelque chose, il le pense. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Quand il dit que tu sèmes, tu moissonnes, c'est vrai. La volonté de Dieu est que vous comptiez sur lui. C'est là où ça blesse un peu. Lui seul est le pourvoyeur. Il est votre pourvoyeur. Votre unique source. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19. Dieu pourvoira. Mais alors la semence, Michel, tu nous dis que c'est la semence, il faut semer. Oui. Ne regardez qu'à Dieu, ça signifie « Je crois que Dieu est la vie de chaque bonne semence. Je crois que dans chaque semence, il y a la vie de Dieu dedans. Je compte donc sur Dieu pour que cette vie se manifeste abondamment. Ma bonne semence semée sur une bonne terre, choisir une bonne terre aussi, ne peut que produire du bon. C'est impossible autrement. » Bon, des fois, il faut l'arroser un peu aussi. Par la prière, hein? Dieu est la source d'où jaillit votre rendement. Alors quand vous plantez une semence d'amour, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à recevoir? Quand vous semez une plante de paix, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à recevoir? Quand vous semez du respect, quand vous semez de l'argent, quand vous semez de la gentillesse, quand vous semez de la bonté, qu'est-ce que vous allez récolter? Eh bien, n'importe quelle semence que vous semiez, ne limitez pas les moyens que Dieu peut employer pour vous donner une bonne moisson de toutes ces choses. Il ne faut pas s'occuper, mais comment il va faire? Ça, c'est plus la foi. Quel moyen il va utiliser? Ah, peut-être qu'il va, ah, ouais, je connais quelqu'un de riche, lui, sûrement Dieu va servir de lui pour me donner. Non, là, déjà, on est tout faux. Laissez-le faire. Laissez-le vous surprendre. Les ressources de Dieu, alors j'aime bien le frère Morgan, il fait comprendre qu'il est indépendant, moi aussi je suis indépendant. Eh bien, les ressources de Dieu sont indépendantes de notre salaire. Les ressources de Dieu sont indépendantes de nos profits, indépendantes des fluctuations dans ce monde. Les gens disent, oh c'est mauvais en ce moment, ça marche mal. Faux, pour moi ça marche très bien. Pourquoi? Parce que j'ai la foi dans ce que si je sème, je récolte, etc., etc. Et me dire, oui, mais est-ce que tu prêches en Afrique? Ben justement, je prêche en Afrique parce qu'ils n'ont plus cruellement besoin qu'ici. Alors, que Dieu utilise un moyen ou un autre, vous pouvez compter absolument sur une moisson abondante parce que Dieu le promet, c'est tout. Cassez pas la tête. Cassez pas la tête. La foi, c'est le repos. Hier, avec les frères, on parlait avec mon frère Morgan, on parlait. Le Shabbat, c'est quoi? C'est le repos, on est rentré dans le repos. Je me repose sur mon Dieu, je suis tranquille, ça ne veut pas dire je fous rien, je sème, c'est pas rien. puis après je récolte, c'est pas rien. De temps en temps, il faut aussi un peu labourer, parce que la terre, elle n'est plus trop bonne. La plupart du temps, c'est pas nous qui labourons, c'est les autres qui nous labourent. Non ? Eh bien, merci Seigneur pour le frère machin qui vient bien labourer le dos et le reste. Et voilà. Et puis après, la semence, ça va pousser. Alors, Dieu va accomplir des miracles matériels, spirituels, de toutes sortes. Parce qu'il y a toutes sortes de semences. C'est la loi de Noé. Vous connaissez la loi de Noé ? Maintenant, je détruirai plus le monde. Les semences et les moissons, ça durera jusqu'à la fin. C'est une loi. L'essentiel, c'est de garder les yeux sur lui, sur Jésus. Et non sur les méthodes qu'il peut employer. Là, ça nous fait perdre la foi quand on est comme ça. Il ne faut plus. Tu sèmes, puis après, tu ne t'occupes plus. Ça va pousser. C'est lui et lui seul qui est la source. Parce que c'est lui et lui seul qui est la vie. Quand on dit Jésus est la vie, mais ça ne veut rien dire. À moins qu'on parle de ça, entre autres. C'est une jolie phrase. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais ça veut dire quoi ? Dans la vie pratique de tous les jours. Alors comme je le disais, un paysan, il ne peut pas se permettre de planter de la semence pour le plaisir qu'il en tire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du plaisir à donner. Moi-même, j'ai du plaisir à donner. Là, on va aller en Afrique. Déjà, là, on a déjà décidé pour le moulin, et on a décidé pour les châteaux d'eau, et puis on va faire encore d'autres choses. Vous savez que dans l'orphelinat, il y a 6 institutrices, ça fait 3 mois qu'elles n'ont pas été payées. Eh bien, on va les payer. Elles vont être contentes, non ? Ben moi aussi, je suis content de faire. C'est génial de pouvoir faire ça, c'est super. Et un paysan, il plante pour récolter une moisson. Faut vraiment mettre ça dans votre tête et vous donner un bon coup pour que ça descende dans le cœur. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de donner votre argent pour la satisfaction que vous en tirez. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Vous ne pouvez pas. Vos dons, ils doivent être productifs. Si vos dons ne produisent pas un rendement supérieur à ce que vous avez donné, comment l'évangélisation se fera-t-elle demain ? Oh, vous ne pouvez peut-être pas tous aller prêcher, vous n'êtes peut-être pas tous d'éloquence pour parler devant des foules et tout, mais quand vous soutenez un ministère qui est un ministère authentique confirmé par Dieu, vous semez dans une bonne terre. Et c'est comme si vous-même vous aviez prêché. Vous aurez votre part de récompense. Parce que vous avez investi dans un ministère, dans une bonne terre. Il reste des millions de personnes encore qui ne connaissent pas l'Évangile, qui n'ont pas entendu l'Évangile. Et leur nombre augmente sans cesse. Vous avez vu hier, on a vu la petite Bertie là. Ah non, Billy. Le nombre des gens augmente sans arrêt. Et donc, donner pour répandre l'Évangile, mais donner aussi afin de recevoir plus pour pouvoir donner davantage la prochaine fois. C'est comme ça que ça marche. C'est des lois que les gens du monde ont comprises. Ils ont compris ça. Ils appellent ça la loi de l'investissement. Il faut être chrétien pour ne pas avoir compris ça. Voilà une bonne perspective de l'argent, n'est-ce pas ? Mais ça exige une vision, ça exige assez de foi pour la mettre en action. Il ne suffit pas de croire que c'est vrai. Encore faut-il la mettre en action. Alors je prie que Dieu vous aide à comprendre cette glorieuse loi, ce glorieux principe de son royaume qui est de donner afin de recevoir, afin que vous prospériez et que son évangile puisse être proclamé. Il va l'être de toute façon, il l'a prophétisé. Mais moi j'aime autant que ça passe aussi par moi un peu. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, chaque moisson exige un miracle. Je vous parlais du petit bébé de Lydie, Olivier, Billy, la petite Billy que nous avons vue hier soir. Elle est le résultat d'une semence. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Tout est semence. Tout est semence. Chaque moisson de blé, d'orge, de bébé, d'amour, d'argent, de paix, de bonté, exige un miracle. La vie de Dieu dans ce que vous semez. Parce que c'est la vie de Dieu qui transforme la semence en moisson. C'est pas vous. Vous avez jamais vu un paysan qui va tirer sur son blé pour qu'il pousse. C'est toujours un miracle. Donc il faut que vous croyez au miracle. Après avoir semé, si ça ne pousse pas tout de suite, il ne faut pas perdre la foi. Il faut attendre. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. La petite Billy, elle est un miracle. Mais on s'est accoutumé à cette sorte de miracle. On appelle ça une naissance. Voilà, c'est normal. C'est habituel. C'est tellement normal. Hein? C'est un miracle. C'est le miracle de la loi de la semence et de la moisson. Pour avoir un bébé, on ne va pas aller semer du blé. Au moins, c'est complètement dingo. Chaque semence porte en elle la nature de la future moisson. On sait ce qu'il faut pour récolter du blé. On sait ce qu'il faut semer pour récolter du blé. Oh ben c'est ballot, je voulais récolter du blé et je pensais que de semer du maïs, ça suffirait. Vous avez déjà entendu un paysan qui dit ça? Pour récolter du blé, ou de l'orge, ou une bonne ambiance, ou de la colère, ou de l'argent, ou de l'orge, ou n'importe tout ce que vous voulez, eh bien, il faut semer la semence, il faut choisir la semence par rapport à ce qu'on veut recevoir, par rapport à la moisson qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de vous demander qu'est-ce que Dieu veut. Dieu lui veut que vous soyez dans l'abondance dans tous les domaines. Attendez-vous à ce que Dieu tienne sa parole. Il a dit, priez, demandez, vous recevrez. Centrez votre expectative sur Dieu. Non pas sur le temps qu'il fait, sur la bourse, ou ces machins-là. Ouais. Dieu est au-delà de tout ça, il peut faire au-delà de tout ça. Il est votre unique source, c'est ça être un croyant. Croyez que Paul, quand il, qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, 6 pour ceux qui veulent la référence. Alors, ayant fait agir votre foi dans sa parole promesse, vous avez tous les droits absolus de compter sur un rendement vraiment important et miracle. Vous avez le droit. Vous voyez, sans l'expectative, la foi, elle est morte. Ça ne sert à rien. Oh, nous avons cette assurance, ça, c'est ce que la Bible dit. Nous avons cette assurance auprès de lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je vous rappelle que sa parole, c'est sa volonté. Nous saurons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14, 15. La chose, pas seulement des trucs spirituels, mais la chose, les choses. Mes frères et sœurs, croyez que Dieu désire vous bénir matériellement et spirituellement, comme c'est dit dans 3 Jean 2. Ne regardez pas cette année 2007 avec des yeux inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets. Comptez sur Dieu, il vient à notre secours, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans la mesure où nous aurons semé des choses bonnes. Dieu veut vous bénir de sa bonté matérielle autant que de sa bonté spirituelle. C'est vrai et physique. C'est vrai. Il vous a créé pour que vous ayez une vie abondante. C'est, je crois, Jean 10 ou je ne sais plus. Et la vie abondante, c'est quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la vie abondante, c'est avoir du pognon. Oui, ça en fait partie. Mais la vie abondante, c'est quoi? Ben, c'est les emmerdes abondants pour avoir des solutions abondantes. Comment voulez-vous avoir des solutions abondantes si vous n'avez pas de problème abondant? Merci Seigneur pour les problèmes. Je vais les transformer en solutions. Comment? En semant des bonnes semences de solutions. en semant les semences que tu veux récolter. En ciblant, en faisant attention. Et puis franchement, entre nous, juste entre nous. C'est que quand on est béni qu'on peut bénir les autres. C'est que quand on est encouragé qu'on peut encourager les autres. Rappelez Coluche, il disait... Si t'as pas 100 balles, tu peux pas donner 100 balles. C'est une logique imparable. Vous allez prendre vos Bibles, vous allez ouvrir dans Psaume 112, 1, 3. Allez, on ouvre la Bible, Psaume 112, 1, 3. Et vous qui êtes chez vous, là, qui regardez la vidéo ou qui écoutez l'enregistrement, vous prenez votre Bible, je vous laisse le temps. Ah, elle est à la cuisine. Bon, alors on vous attend un peu. Non, ça y est, vous y êtes. Psaume 112, 1, 3. Et on va lire tous ensemble, à haute voix. 1 à 3. On y va. Louez l'Éternel, heureux en marche l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, La génération des hommes droits sera bénie, le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. Est-ce que c'est un mensonge ? Parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est la vérité. Si quelqu'un croit que c'est un mensonge, ben ça devient un mensonge pour lui. Il en sera fait son ta foi, c'est tout. Moi, je crois que c'est vrai. Je suis assez enfant pour croire que c'est vrai. Est-ce que vous êtes cette sorte de personne ? La volonté de Dieu, c'est que vous viviez de ces bonnes lois, promesses, et non de la loi de jante qui maintient le monde dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, dans le misérabilisme, dans des traditions hybrides qui castratrices et toutes ces sortes de choses. Allez-vous croire ce matin ? Moi, je crois cela. Et je vais donc agir dans ce sens. Dès ce premier jour de 2017, et je prie vraiment de tout mon cœur que vous de la communauté, vous qui nous écoutez aussi sur le net, eh bien, vous fassiez la même chose. Un de mes professeurs à l'école biblique qui disait, je suis heureux, j'ai vraiment une vie formidable. Si vous êtes jaloux, faites comme moi. Je fais ça le truc. C'est un type qui faisait toujours ça. Ceux qui le connaissent, ils le reconnaîtront, ils sauront de qui je parle. C'est vrai, si vous êtes jaloux de notre réussite, de nos bénédictions, de notre paix, de notre joie, même au sein de l'épreuve, si vous êtes jaloux, bah faites comme nous. Croyez en Dieu qui est la vie. Et tout ce que vous semez, sa vie est dedans. Sa vie est dedans. Bon, il y a des semences. Ce n'est pas tout à fait la vie de Dieu qui est dedans. C'est une autre sorte de vie. Mais ça, c'est un autre sujet. J'y reviendrai un autre jour. Pour le moment, restez positif. Restez positif. Ayez les yeux fixés sur Jésus, sur ses bonnes lois et sur les bons résultats que vous voulez recevoir. Amen. Amen. Jésus, je te prie de bénir ce que j'ai dit dans le cœur de chaque auditeur, de chaque spectateur, que chacun puisse prendre conscience. Mais oui, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est vrai. Je vais commencer. Ouais, je n'ai pas grand-chose à semer, point de vue finance. Mais c'est pas important, mon frère, que tu n'as pas grand-chose à semer, point de vue ciment. C'est pas important. Regarde la veuve, elle avait rien, elle avait trois fois rien. Mais c'est elle dont on parle encore 2000 ans après. C'est pas la somme qui est importante. C'est le fait que tu sèmes avec foi. C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Alors, ne dis pas, oh, ça ne vaut pas la peine, je sais pas, ça ne sert à rien. Non, aie foi et donne autour de toi de la gentillesse, de l'amour. Rend service, tout ça, tu vas le récolter. Seigneur, je te prie vraiment pour que mes frères et sœurs croient ça, qu'ils se simplifient la tête, le cœur, qu'ils se simplifient et que leur vie soit magnifique, soit belle, alors que tout va de travers dans ce monde, afin qu'on voie la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bientôt. Au revoir.